Steven Montoir, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes actuellement embauché par le diocèse de Marseille et vous travaillez au sanctuaire Notre-Dame de la Garde. Vous avez l'habitude de croiser des pèlerins, mais vous êtes vous-même un pèlerin. Dans votre histoire de foi, les sanctuaires ont une importance, entre autres les sanctuaires mariaux. Est-ce que vous pouvez nous parler du sanctuaire qui vous tient particulièrement à cœur?
Celui qui me tient, c'est celui de Pontmain et qui est dans le thème de l'espérance avec ce jubilé. Parce qu'à Pontmain, c'est Marie, reine de la paix, mère de l'espérance. Voilà, c'est une très très belle apparition et un sanctuaire très humble.
Et actuellement, vous travaillez au sanctuaire Notre-Dame de la Garde. Ce sont des millions de personnes qui y passent. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher?
C'est un sanctuaire de miséricorde. Ils viennent aussi avec cette année jubilaire. Parce qu'on peut accomplir la démarche jubilaire à Notre-Dame de la Garde.
Une démarche importante qu'on accomplit aussi à Rome. Et on vient à notre troisième thème dans votre parcours, c'est que vous aimez aller à Rome. Vous y êtes allé en quelle année pour la première fois?
Première année, c'était la canonisation de Charles de Foucault en 2022.
Mais depuis, vous y êtes retourné plusieurs fois. Et d'ailleurs, je vous prends au vol du retour. Vous y étiez le week-end dernier.
C'est ça, c'était un week-end magnifique entre les 100 ans de la canonisation de Sainte-Thérèse de Lisieux avec le cardinal Parolin qui nous a fait la surprise d'être là samedi, et puis l'intronisation dimanche et le recueillement à la tombe du pape François à Sainte-Marie-Majeure.
Et vous y étiez il y a un mois au moment où il y a eu les obsèques du pape François, mais vous aviez prévu d'y aller. C'était lié cette fois à Carlo Acutis. Quelle est votre histoire avec ce jeune homme qui sera bientôt canonisé?
Carlo, il m'a surpris parce qu'il a touché des personnes que je connais et j'ai juste été une fois assise pour prier pour mes amis là-bas. Et en fait, c'est lui qui m'a pris. Voilà, j'étais touché par son histoire, par ce qu'il apporte. Et puis après, le hasard, si on peut dire le hasard, a fait que j'ai rencontré sa maman à Paris. J'ai eu la grâce de vivre mon anniversaire à Paris, la médaille miraculeuse avec Antonia. Et voilà, depuis, il m'inspire beaucoup. Voilà, c'est une espérance, Carlo Acutis, pour tous les jeunes.
Vous avez pu rencontrer une personne qui a bénéficié d'une guérison via l'intercession de Carlo Acutis, il me semble.
Oui, c'est ça. Ben, je l'ai rencontré à Paris. Et puis également un prêtre, Père Will Conquer, très proche d'Antonia et qui est missionnaire en Asie et que j'ai pu revoir lors des funérailles du pape François il y a 2 semaines.
Quel est le message de Carlo Acutis, selon vous?
Pour moi, c'est l'espérance. C'est pour ça que ça a du sens en cette année jubilaire pour moi, Carlo, parce que c'est l'adoration eucharistique. Pour moi, l'adoration, voilà, c'est une grâce que j'ai découvert aussi grâce à lui. Vraiment, le sens de l'adoration eucharistique, la grâce qu'on a de communier. Pour moi, la communion, c'est l'espérance. C'est une grâce de pouvoir communier chaque jour. Et puis, Carlo nous invite aussi à prier le chapelet, bien sûr. Donc, tout ça, ça résume pour moi l'espérance. Et puis, l'espérance que moi aussi, en fait, du jeune que je suis ou de mon adolescence que j'ai passée. Eh bien, qu'on peut aussi se convertir, qu'on peut être saint, que des adolescents qu'on peut croiser, ici par exemple à Notre-Dame de la Garde, comme pèlerins, eh bien, que parmi ces ados, il y a un futur saint ou qui vivent de sainteté, et c'est ça l'espérance. Voilà, et de prier Carlo pour tous ces jeunes qui viennent aussi ici à Notre-Dame de la Garde.
Et parfois, peut-être, les histoires de sainteté, on se dit, oh, ça, c'était le siècle dernier, ou il y a 300 ans, il y a 400 ans, Dieu peut plus agir aujourd'hui. Carlo Acutis, c'est hier, je veux dire, il est mort. En quelle année? C'est très récent, quand même, Carlo Acutis.
C'est ça, c'est vraiment ça. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment quelque chose, Carlo, parce que j'ai un frère qui est né l'année de naissance de Carlo Acutis. Il est mort en 2006 et ma toute petite sœur venait de naître. Et du coup, ça pourrait être mon frère, ça pourrait être... Là, de plus, après la mort de Carlo, Antonia Acutis a eu des jumeaux qui sont parmi maintenant les adolescents d'aujourd'hui. Et pour moi, j'avais cette vision-là, comme Saint Charles de Foucault. Pour moi, il était déjà saint depuis longtemps, il était canonisé. J'avais eu la chance d'aller à sa canonisation. Et pour moi, c'était le passé et pas le maintenant. Et c'est vraiment ça, Saint Jean-Paul II, la canonisation de Saint Jean-Paul II. Quand j'avais assisté à ça la première fois à la télévision, je m'étais dit, mais en fait, c'est possible, il y a encore des saints aujourd'hui. Et Carlo, bah, c'est vraiment ça, en fait. Nouveau, c'est vraiment, et ça prend acte de maintenant, de l'Église d'aujourd'hui et de celle de demain. Et Dieu se sert de chacun, voilà, au quotidien aujourd'hui. Et c'est vraiment, vraiment ça qui est beau. Tout comme Sainte Thérèse de Lisieux, on fête les 100 ans de sa canonisation. Mais ça ne s'arrête pas à...
Elle est morte jeune, elle aussi, hein?
C'était, il y a 100 ans, c'était peut-être justement, ou même à sa mort en 97, ça devait être symbole d'espérance. Et là, c'est ce qu'on vit avec Carlo Acutis aujourd'hui. Carlo Acutis qui aurait voulu aussi une vie religieuse. Pour moi, Sainte Thérèse aussi, c'est ça. Elle a été sainte, mais ça ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, les miracles, ils continuent. Et la sainteté, c'est au quotidien et c'est pas le passé pour moi.
Et vous m'avez raconté précédemment que lorsque vous êtes rendu à Rome, pas ce voyage de ce week-end-là qui vient d'avoir lieu, mais il y a un mois, c'était pour la canonisation de Carlo Acutis. Il y a pas mal de jeunes qui avaient prévu être là en même temps. Malheureusement, ou heureusement en tout cas, ça n'a pas été possible qu'il y ait la canonisation parce que le pape venait de mourir. Par contre, tout le monde était là pour les obsèques du pape François. Et vous avez croisé énormément de jeunes à Rome. Quelle impression ça vous a donné?
C'était vraiment ça qui était très beau. C'est avant de partir, j'étais triste en vrai pour tous ces jeunes qui avaient prévu le week-end ou peut-être la première fois qu'ils allaient voir le pape ou le premier pape de leur vie. Et en fait, j'ai pris une claque parce qu'il y avait plus de 600 000 ados présents à Place Saint-Pierre pour rendre un hommage et en fait se rendre compte de la grâce qu'ils avaient de pouvoir accompagner, prier pour le pape François. C'était pas un spectacle. C'était pas voulu et ils sont ici et en fait Carlo a transformé en fait ce moment normalement de joie de canonisation et eh bien en fait en joie de voir que notre pape partira lundi de Pâques et de pouvoir accompagner le pape François. C'était vraiment ça et j'avais pris vraiment une claque incroyable parce que j'étais triste avant d'y aller, j'avais une idée et en fait ils m'ont mis une claque parce qu'il y avait de la joie. Et c'était vraiment très très beau, voilà.
Et quelle impression vous gardez de cette première messe de l'intronisation du pape Léon XIV?
Pour moi, c'était une joie dans le sens aussi de faire le deuil du pape François. Pape François, j'ai eu la chance de le voir 6 fois. C'était vraiment un moment très intense. J'étais très bien aussi placé pour vivre ce moment-là. C'était très spirituel, c'était très enrichissant. Je pense c'est au-delà de quelque chose de d'historique, c'est vraiment quelque chose de. On prend conscience que sa charge commence maintenant. J'arrive pas trop à expliquer encore ce que j'ai trop vécu ce week-end. C'était vraiment tellement.
C'est encore tout récent. Oui, vous allez repartir à Rome avec le diocèse de Nîmes en juillet pour le jubilé des jeunes. J'imagine qu'à chacun de vos voyages, c'est à chaque fois un peu différent parce que c'est d'autres pèlerins, c'est un autre moment d'histoire, c'est d'autres types de célébrations.
C'est vraiment ça et c'est totalement différent. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je me suis concentré sur ce que j'avais prévu de faire. Quand j'étais aux obsèques du pape François, c'était le recueillement auprès du pape et les funérailles. Et j'ai pas été visiter ailleurs. J'ai pas couru pour aller me recueillir au tombeau du pape François. Et là, j'y suis allé dans le sens, je vais me recueillir au tombeau du pape François à Sainte-Marie-Majeure, prier et assister à l'intronisation. Et je n'ai pas fait autre chose. Et pour moi, en fait, que ça soit le jubilé qu'on va vivre avec le diocèse de Nîmes cet été, et puis les obsèques du pape François, et là, l'intronisation, c'est à chaque fois l'espérance. C'est vraiment, vraiment, et on est dans le thème, et c'est vraiment ça. On est invité à être des pèlerins, et j'ai été pèlerin qui va se recueillir auprès du pape, pèlerin qui va accompagner ce nouveau pape, rendre grâce pour tous les cardinaux aussi qui étaient présents lors du conclave. Et puis cet été, ça va être aussi une démarche plus personnelle avec la démarche jubilaire, mais plus de communion, parce que on va être avec un groupe de jeunes. Et puis la canonisation de Giorgio Farsetti qui va avoir lieu aussi fin juillet.
Steven Montoir, merci beaucoup d'avoir témoigné, vous qui êtes pèlerin d'espérance, on peut le dire, un pèlerin qui s'est rendu à Rome déjà 2 fois en 2025 et qui retourne cet été. Merci.